J'appelle à présent Clément Sabatier, qui est psychologue à l'établissement Corian-Perrier et qui va nous parler du rôle de l'institution gériatrique auprès du patient atteint de syndrome démentiel. On vous écoute avec grande attention.
Pour changer, juste pour changer,
Il faut juste appuyer, droite ou gauche, non, c'est ça ?
Bonjour, merci pour votre invitation déjà.
Peut-être abaisser un peu les micros.
Ok, merci. Donc, mon propos, ça sera plutôt une réflexion éthique sur ma pratique clinique en maison de retraite. Alors, le titre peut faire peur, mais je vais un petit peu clarifier les concepts. Institution gériatrique, c'est un terme qui est utilisé en psychologie, disant que c'est un ensemble, un collectif qui est investi affectivement par le travail, par différents membres qui sont l'équipe soignante pluridisciplinaire. Et syndrome démentiel, c'est un affaiblissement des aptitudes mentales et cognitives, telles que le langage, le raisonnement et la mémoire, et qu'on retrouve, hélas, bien sûr, dans la maladie d'Alzheimer. Donc l'admission en EHPAD, c'est toujours un passage complexe pour toute personne âgée. L'EHPAD est présenté comme un lieu de vie, mais pourtant, cette entrée en institution ne fait pas l'économie de la perte de liens sociaux pour la personne âgée. Elle perd son voisinage, elle perd ses commerçants de secteur, les aides humaines auxquelles elle s'était attachée à son domicile. En EHPAD aussi, la personne âgée est confrontée à sa dépendance à autrui par l'omniprésence du corps soignant. Elle est aussi affectée par son avancée dans le vieillissement. En effet, l'état clinique des autres résidents, qui parfois sont aussi affectés par les mêmes troubles, lui sont renvoyés en miroir. Et ce changement d'environnement est d'autant plus perturbant pour la personne âgée quand elle présente un syndrome démentiel. Pourquoi ? Parce que le rapport à la réalité est compliqué et l'accès au réel est difficile à saisir parce que son expression est parfois entravée. Il devient alors complexe pour la personne âgée d'indiquer ce qui fait souffrance chez elle. Alors, à quoi sert un EHPAD ? Alors, nos questions aujourd'hui, c'est comment l'institution gériatrique peut accompagner le sujet âgé atteint d'un syndrome démentiel et quelles caractéristiques doit-elle présenter pour que le sujet âgé l'investisse en tant que nouveau lieu de vie. Alors, un premier accès, ce serait proposer un lieu porteur de sens. Pourquoi ? Parce qu'il est important que la personne âgée, de par ses troubles, se sente contenue et sécurisée. Alors, comment ? Il faut qu'elle puisse percevoir des limites dans l'espace et le temps. Il faut qu'il existe un dedans et un dehors qui doit exister même dans les unités de vie protégée, qui sont fermées. Je dis un dehors intramuros, ça veut dire les terrasses de l'EHPAD, mais un dehors hors EHPAD, ça veut dire l'idée qu'un lieu autre peut exister. Comment ? Par l'importance de la réalisation des sorties. Il faut aussi qu'il y ait de l'intime et du partagé, par l'organisation architecturale de l'EHPAD, qu'on retrouve dans tout foyer de vie, comme chez nous. Il y a des chambres personnelles et aussi des lieux communs tels que la salle à manger, la cuisine thérapeutique. Il faut également du familier et de l'étranger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on connaît plus ou moins bien des personnes. Certaines appartiennent à l'institution et d'autres non. Il faut également que la personne âgée puisse faire la différence entre la famille et ce qui est du professionnel. La famille, elle, a partagé une histoire de vie avec une personne qui était valide cognitivement et qui peut nous donner, justement, c'est un avantage, qui peut nous donner cette vision en miroir. Et le professionnel, lui, doit être reconnaissable par ses différents attributs. Cela peut être le port de la blouse, le langage utilisé. Il peut avoir une alliance thérapeutique et c'est bénéfique avec le résident, mais il n'est pas un substitut familial. Alors, comment mettre en place cette perception de limite dans l'espace et le temps, dans la vie quotidienne en EHPAD? Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir rajouter des empreintes mnésiques visuelles. Ça peut être un affichage, des plannings, aussi adapter l'environnement, placer, ça peut paraître tout bête, mais des objets adaptés à chaque pièce. Proposer une journée qui ait du sens, rythmée par l'alternance de différents temps, des temps plus ou moins stimulants, des temps plus ou moins sociaux, des moments où ils peuvent un petit peu être plus seuls avec eux-mêmes, dans leur chambre, écouter la radio, regarder la télé, et d'autres où ils sont au contact des soignants et des autres résidents. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, ce qui est important, c'est que dans une vie en communauté, il est vraiment, je souligne ce point, il faut accueillir la singularité de chaque sujet. Hein. Alors, il ne faut pas être dans la négation des troubles, les troubles existent, les personnes âgées sont là parce qu'il y a une maladie démentielle, ici la maladie d'Alzheimer, mais il ne faut pas non plus se positionner dans une approche déficitaire, c'est-à-dire ne pas voir que la personne âgée sous ses aspects entravés, déficitaires. Alors, un temps fort à l'EHPAD qu'on fait, c'est la réalisation du projet personnalisé. C'est un temps qui est réglementaire, qui est demandé par les tutelles, où l'équipe pluridisciplinaire se réunit autour du résident. Il y a la présence de la famille aussi qui est très importante et l'ensemble des acteurs qui interviennent auprès de lui. Et là, on va rechercher la narration de son histoire de vie. Où est-il né? Dans quel contexte? Comment a-t-il investi sa vie familiale, maritale, professionnelle? Cela permet de préserver et transmettre son identité et aussi parfois donner sens à des symptômes. Par exemple, on a une personne... Je vais donner un exemple, en unité protégée, on avait peur qu'il fasse des agirs agressifs, il déplaçait des chaises de façon assez brusque, et on a compris plus tard que ce monsieur était représentant d'un syndicat et qu'il souhaitait préparer sa réunion qu'il faisait auparavant. Hein ? Donner du sens dans des moments un petit peu délirants, c'est parfois aussi rassurant. Et là, justement, la personne âgée devient un sujet et non plus uniquement un regroupement de symptômes normalement attendus dans la maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres questions qui sont centrales à poser au sujet ou à la famille s'il n'a plus aptitude pour le dire. Quels sont ses centres d'intérêt, anciens, nouveaux? Qu'est-ce qu'il apprécie? Qu'est-ce qui l'éveille? Parfois, la personne âgée est discommunicante. Il est important de trouver des alternatives à la relation duelle d'échange verbal. L'importance de la sensorialité. C'est pour ça qu'on déploie dans nos EHPAD les thérapeutiques non médicamenteuses. Je crois que ça sera le sujet prochain, justement. Donc, les centres d'intérêt. Et aussi, qu'est-ce que la personne âgée peut encore réaliser à ce jour? Ça s'appelle le maintien des capacités préservées. Et on pose la question, quel que soit l'état clinique du résident. Cela permet aussi de clarifier le rôle du soignant. Il y a un tuteur qui aide un petit peu... Comme une plante à pousser, il ne fait pas la place, il l'accompagne. Donc, comme j'ai dit, cette réflexion a lieu lors de la réunion du projet personnalisé et aussi de manière informelle lors de staff, lors d'échanges dans le couloir. Ça permet aussi que la personne âgée garde une part de proactivité dans une vie qui est régie par des contraintes institutionnelles. Les horaires de la toilette, les horaires du repas, tout ça lui, entre guillemets, imposé. Donc ça, c'était le deuxième aspect. Et le troisième, l'EHPAD peut venir faire tiers entre le sujet âgé et sa famille. Pourquoi ? Parce que des fois, il est difficile pour l'entourage proche de la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer d'accepter l'état clinique. Comme on a vu avec le docteur Stampa, l'accompagnement peut être coûteux psychiquement. Et on observe souvent un épuisement de l'état principal qui peut être un époux, une épouse, des enfants, un neveu, une nièce... Et là, l'institution gériatrique va venir apporter une lecture autre, donc nouvelle, de la situation de la personne âgée. Il y a autant de lectures qu'il y a de professionnels. L'EHPAD devient alors un tiers neutre et investi émotionnellement dans sa relation avec le résident, mais différent qu'avec un membre familial, parce qu'il n'a pas d'histoire passée avec celui-ci. Donc on sort un peu de ce huis clos qui est parfois étouffant pour l'aidant et l'aidé. On arrive à une triangulation qui permet aux sujets âgés assez proches d'avoir des moments privilégiés, que pour eux. Ils sont, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, délestés des actes de la vie quotidienne, qui sont la toilette, la prise alimentaire. Hein, bien sûr, il y a toujours chez l'aidant cette préoccupation psychique, même s'il est placé en EHPAD, hein, il y a toujours cette préoccupation qu'on observe fréquemment et qui est normale. Et je veux dire que l'EHPAD devient tiers qu'à une condition, c'est si l'institution... elle est ouverte sur l'extérieur. C'est-à-dire si l'EHPAD accepte que des professionnels viennent donner leur avis clinique. Ça peut être des équipes mobiles hospitalière, on travaille avec le CGD, le Centre gérontologique de Montolivet, avec l'équipe de gérontopsie de Sainte-Marguerite. Si elle accepte que d'autres professionnels viennent, mais aussi que les soignants se mettent au travail par des groupes d'analyse de pratique où un ou une psychologue peut venir et les faire réfléchir sur leur fonctionnement. Il faut aussi qu'elle accepte l'autorité des tutelles. Il y a beaucoup d'aspects réglementaires. Les tutelles, c'est l'ARS et le Conseil général. Alors, quelles sont... Alors, on tend vers un idéal, hein, voilà, je l'entends bien. Quelles sont les trois fonctions alors, de l'EHPAD ? Alors, ça pourrait être mettre du sens quand il devient difficile d'en trouver, reconnaître l'individualité de chaque sujet dans une vie en communauté et faire tiers entre le résident et sa famille. Et je pense que si on est dans cette grille de lecture, on peut redonner à la personne âgée sa place de sujet dans la société, mais aussi restaurer sa dignité. Alors, j'ai une ouverture. Quel est l'EHPAD de demain ? Aujourd'hui, on se questionne, hein, nous, les acteurs sur le terrain. Est-ce que l'EHPAD qu'on propose est toujours adapté pour les nouveaux profils cliniques qui arrivent, des personnes qui ont eu des modes de vie différents, qui ont un rapport à autrui aussi différent. Donc voilà, je vous laisse cette ouverture, quelques ouvrages qui m'ont aidé à penser, et je vous remercie pour votre attention.
Merci, merci infiniment. Je crois que là, on a Camille 5 minutes de questions, on va essayer de les respecter. Allez-y, je vous en prie. N'hésitez pas à lever le doigt. C'est une réflexion, effectivement, que vous nous avez partagée. Alors peut-être, moi, la psychologue que vous êtes, une petite question. Tout à l'heure, le docteur Stampa disait ce qui épuise encore plus, ce sont les troubles cognitifs. Vous avez évoqué ces troubles de la personnalité. Est-ce que, comment, quel conseil en tant que psychologue vous donnez à quelqu'un qui est face à quelqu'un qu'il ne reconnaît plus dans sa personnalité ? Ça, c'est quand même quelque chose. C'est terrible. Et c'est ce qui arrive. Voilà. Cet autre qui a toujours une identité, mais c'est un autre déjà. Mmh. Et on se fâche et on veut le rappeler à son histoire.
C'est très compliqué parce qu'on a une grille de lecture de nous, je dis entre guillemets, aptes cognitivement. On essaye de. Vous voyez, comme un nourrisson qui essaye de mettre dans ses jeux un rond dans quelque chose de carré. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'être, le sujet demeure. Il peut être altéré par la maladie, mais il se peut se passer des choses quand on passe par d'autres canaux de communication. Hein. Ça peut être partager une activité par le toucher, par trouver d'autres...
Mais accepter qu'il n'est plus le même ou qu'elle n'est plus la même, qu'elle est différente.
C'est un travail qui est long, qui ne peut pas se faire en quelques jours. Et c'est un travail, oui, de deuil aussi. Hein. La personne est vivante, mais elle change.
Très bien. D'autres réflexions ? Questions dans la salle ? Oui, madame ? Une. On a quelques minutes, donc on peut prendre une question. Oui, on voulait...
Comment ça se passe en fait pour la personne, le rapport qu'elle a avec elle-même, en tout cas le malade quoi, ou la personne qui est malade, sa perception d'elle-même.
Alors sa perception d'elle-même, ça dépend. Il y a des moments où il y a des éclairs de lucidité, où justement on voit des effondrements dépressifs, où la personne saisit qu'elle est en maison de retraite, elle peut même se voir dans le miroir, se dire qui je suis, comment je suis devenue. C'est très effractant pour elle, et elle retourne un petit peu dans ses symptômes, si j'ose dire, où elle peut se situer... comme une jeune fille, comme une jeune mariée. Elle attend, par exemple, d'aller chercher ses enfants. Donc, elle peut se situer à différents moments de sa vie. Nous, on n'est pas là pour dire non, ce n'est pas la réalité. On essaye d'immiscer du doute. Vous êtes sûr, vous pensez. Voilà, pour la réorienter dans le temps et l'espace, mais pas de façon frontale et brutale. Parce que je pense que tout symptôme aussi vient pallier une réalité qui est trop difficile aussi. Bien sûr, il y a sans nier, une étiologie somatique.
Voilà. D'accord. Donc au niveau de son identité, en fait, elle arrive toujours à se repérer ?
Il y a des moments, très courts, très brefs, en fonction de l'évolution de la maladie. Après, il y a des parts identitaires qui restent. Souvent, elles me disent la part maternelle aussi, hein, être parent, ça reste aussi. La profession, alors nous on est dans un EHPAD, il faut quand même donner le cadre sociologique dans le 8e arrondissement auprès d'un certain public assez aisé, donc il y avait quand même des postes assez importants, donc des fois il y a aussi des réactions de prestance dues à certains niveaux de vie, niveaux d'éducation, donc il y a certaines parts de leur vie qui restent, voilà, qui ne s'effacent pas totalement.
Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va vous applaudir pour cette intervention extrêmement intéressante.